C'est en général particulièrement intéressant, c'est au moment des repas. Au moment des repas, on voit bien quelles sont nos cultures et la manière dont on vit nos temps de repas, quelle est la place de la famille, quelle est la place de la hiérarchie, de l'hospitalité, de tout un tas de choses. On avait une discussion il y a 2 jours avec des amis sur la place des repas dans la culture. Un de nos amis nous disait, mais au Danemark, c'est pas le cas. Le midi, on prend juste un sandwich et puis c'est réglé. Mais je pense que même ça en dit long sur une culture où, quand le travail prend le pas sur les repas et l'aspect social des repas, ça dit quelque chose de la culture quand le repas n'est plus un moment social et un moment partagé. Donc voilà, la culture, ça, c'est vraiment l'air qu'on respire. Et dans ce sens-là, en tant qu'Église, on est nécessairement en contact avec notre culture. D'une certaine manière, on peut s'y opposer, on peut s'adapter, on peut encourager certains changements, mais on n'est jamais une autarcie où on serait complètement séparé de la culture ambiante. Et là aussi, c'est plus facile de le voir quand c'est chez les autres. Ça peut être amusant si on discute avec un Américain, en général, si c'est un baptiste du Sud, un vrai, il peut défendre à la fois que pour être un bon chrétien, c'est absolument interdit de toucher à l'alcool. Et dans la minute qui va suivre, en bon chrétien, il va nous montrer toute l'artillerie qu'il a chez lui, toutes les armes à feu qui font de lui un bon chrétien. Et vu de l'extérieur, ça peut faire sourire des fois et dire, mais peut-être que c'est pas ça la vraie définition d'être chrétien. Mais c'est plus facile à voir chez les autres. Et chez nous, on peut être influencé par la culture française ou la culture dans laquelle on a grandi, sans clairement voir dans quelle mesure ça influence notre vie chrétienne, notre perception de ce que c'est être chrétien et notre manière dont on lit la Bible. On est un peu comme des poissons dans l'eau dans notre culture et tant qu'on est dans l'eau, on ne voit pas vraiment l'importance qu'a l'eau et c'est au moment où on sort du bocal qu'on se dit mais si, l'eau du bocal, elle m'était importante. Alors c'est un peu l'objectif ce matin de pouvoir prendre un peu de recul et de réfléchir, mais quelle est notre relation avec notre culture ambiante? Tant qu'on ne prend pas conscience de notre relation avec la culture ambiante, on est au risque d'être influencé par elle sans s'en rendre compte. Et on a besoin de prendre du recul et d'avoir un regard critique, pas dans un sens négatif où tout ce qui serait de notre culture serait négatif, mais un regard critique dans le sens d'évaluer quelles sont les influences diverses auxquelles on est soumis. Un peu comme un missionnaire, et c'est un peu ce regard que je vais vous encourager à avoir ce matin, c'est comme un missionnaire qui arrive dans une autre culture et qui veut voir comment une société fonctionne et voir comment avoir une vie proprement chrétienne dans cette culture, que nous aussi nous puissions avoir ce regard de missionnaire en France et là où Dieu nous place pour voir comment vivre notre vie chrétienne là où nous sommes. Alors ce matin, je ne vais pas faire systématiquement des parallèles avec tel ou tel texte biblique parce que il faut être clair que dans l'ensemble du texte biblique, il n'y a pas exactement la même situation culturelle que la nôtre. Nous ne sommes pas comme en Israël dans une théocratie où c'est la loi de Dieu qui fait la loi civile. On n'est pas non plus exactement comme l'Église ultra-minoritaire dans une société qui ne connaissait rien de l'Évangile. D'une certaine manière, on ne vit pas et on ne se pose pas les mêmes questions que se posaient Moïse ou Paul. Cependant, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut voir, notamment si on voit comment Paul interagit avec sa culture. Il a eu à se poser ces questions, il était tout à fait proactif pour se positionner par rapport à la culture ambiante. Juste pour donner un exemple, lorsqu'on le voit, et c'est un exemple qui est fameux, mais lorsqu'on le voit interagir à Athènes en Acte 17, Paul a un regard très vif par rapport à sa culture. D'abord, il est absolument choqué de voir toute l'idolâtrie. Il n'est pas naïf, il voit tout ce qu'il y a de négatif dans la culture. Mais il voit aussi les ponts qu'il peut y avoir. Et dans son discours à l'Areopage, il commence par les points communs. Il commence par cette idée du Dieu inconnu et de dire, mais voyez ce Dieu inconnu qui fait partie de votre culture, bah partons de ce point-là et voyons dans quelle mesure ça peut nous amener jusqu'à la résurrection. Et à la résurrection, il est clair qu'il est en tension avec la culture, il assume cette tension. Mais il ne le fait pas à l'aveugle, il le fait en étant bien conscient de la culture dans laquelle il est et comment partir de points communs pour être entendu et apporter l'évangile. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, juste 2 livres que j'ai particulièrement utilisés et que je vous recommande. Un livre de Tim Keller, Une église centrée sur l'évangile, la dynamique du ministère équilibré au cœur des villes d'aujourd'hui. Et en particulier, il se centre sur les questions des chrétiens dans les grandes villes du monde. Et je vous recommande nettement ce livre-là, en particulier en tant que parisien. Et ce livre a déjà été présenté dans l'Église, « Vivre en chrétien aujourd'hui ». C'est un dictionnaire d'éthique qui couvre un certain nombre de sujets. Mais il y a notamment un sujet sur la société et qui pose des bonnes questions et qui présente un panorama des possibilités de la relation entre l'Église et la culture qui présente vraiment un bon résumé en quelques pages. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir la relation entre l'Église et la culture suivant trois aspects. Le premier, c'est comment l'Église doit être audible dans la culture dans laquelle elle est, comment elle est amenée à communiquer et rencontrer la culture dans laquelle elle est de manière audible. Deuxième aspect, c'est qu'est-ce que l'Église peut apporter à la culture ambiante, quelle est notre responsabilité et la manière dont on peut avoir le droit à la parole dans la culture ambiante. Et enfin, presque le mouvement inverse, comment on peut être questionné en tant que chrétien par la culture. Qu'est-ce qui dans notre culture ambiante peut venir questionner nos pratiques, notre foi et nous amener à re-réfléchir sur l'enseignement biblique et pouvoir retourner au texte et voir ce que ça veut dire pour nous. Alors je vous propose de suivre ces trois parties, on essaiera en gardant un œil sur la boucle d'avoir des temps d'échange après chaque partie, comme ça si vous avez des questions, vous pouvez réfléchir. Ça inclut des sujets qui peuvent être débattus, donc je vous présente les convictions que j'ai en réfléchissant et à partir du texte biblique, mais c'est aussi l'occasion pour nous de pouvoir en discuter ce matin. Alors le premier point, l'Église doit se rendre audible par la culture. Je pense que c'est essentiel de réaliser à quel point il y a un gouffre culturel entre le monde dans lequel nous vivons et l'Église. Des fois, on voit notre mission, lorsqu'on parle d'évangélisation, non, mais si seulement on pouvait leur annoncer le message de l'Évangile, il faut trouver des occasions, des espaces où on peut dire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour le pardon de nos péchés, que c'est par sa résurrection que nous avons obtenu la vie éternelle, en mettant notre foi en Jésus. Et on cherche à créer des espaces de discussion pour donner ce message. Et ce message est vrai, et c'est le plus beau des messages qui soient. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on ne réalise pas à quel point la distance que nous avons avec la culture dans laquelle nous vivons est grande. Et que ça peut créer un certain nombre d'incompréhensions. Rien que dans le résumé que je viens de faire, mais Jésus, Fils de Dieu, croix, péché, résurrection, foi, vie éternelle, quasiment tous les mots sont incompréhensibles pour la majorité des personnes qui vivent en France. C'est pour certains quasiment un exposé de physique quantique, et c'est bien, c'est peut-être vrai, c'est peut-être intéressant, mais c'est simplement incompréhensible. Et lorsqu'on a grandi dans l'Église, c'est important de se rappeler à quel point la distance est grande et on peut l'oublier assez facilement. J'ai des chiffres où a priori, 45% des Français ne savent pas ce qu'est Pâques. Donc on peut dire plein de choses sur Pâques, mais il faut partir du principe que la simple notion de Pâques est absolument absente dans notre culture. Il y a un certain nombre d'anecdotes qui m'amusent, et, entre guillemets, m'amusent sur ce sujet. Il y en a une particulièrement, c'est un petit, ça s'est passé il y a quelques années, et c'est relaté dans le livre Radicalement chrétien. C'est un petit garçon qui se balade dans une rue en Angleterre et il voit un Christ sur un crucifix devant une église et il demande à sa maman, mais c'est qui le monsieur sur la croix? La mère elle dit, bah, je sais pas, je demanderai. Et ce qui est particulièrement frappant, c'est que en arrivant à l'école, il y a une réunion de parents d'élèves avec 25 parents. Sur les 25 parents, un seul des parents est capable de dire que c'est Christ qui est sur la croix. Le crucifié représente Christ crucifié. Des choses qu'on n'imaginerait pas si on avait grandi dans l'Église, c'est évident, mais pour beaucoup de nos concitoyens, des choses aussi profondes et aussi, on pourrait dire, basiques, en tout cas centrales pour notre foi, sont tout à fait mystérieuses. Il y a un vrai changement dans notre société, où, comme disait quelqu'un qui a fait beaucoup d'évangélisation sur les campus américains dans les deux dernières générations, et dire, avant, je remarquais que les athées avaient le bon goût, si on peut dire, d'être des athées chrétiens. C'est-à-dire que le Dieu qu'ils niaient, c'était le Dieu de la Bible. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Ils sont athées comme position par défaut. C'est le théologien Francis Schaeffer qui était en tant qu'Américain en Angleterre il y a plus de 50 ans, s'étonnait déjà en disant non seulement les étudiants européens ne croient en rien, mais ils ne sont même pas en mesure de poser les jugements nécessaires pour ne croire en rien. C'est-à-dire, c'est un état de fait, ils ne croient en rien, et c'est l'évidence même, ils ne se sentent même pas la nécessité de justifier le fait de ne croire en rien. Alors, dans notre culture, en fait, c'est le fruit de différents processus, à la fois ce qu'on appelle souvent la déchristianisation, c'est simplement le fait que dans nos sociétés, il y a de moins en moins de chrétiens, mais plus que ça, on parle aussi de sécularisation, c'est l'idée que la foi qui avait un rôle central dans notre culture est amenée à être en périphérie de notre culture, réservée au privé, réservée à ce qui nous regarde nous, mais pas à la vie de la société. C'est ce qui fait que non seulement il y a de moins en moins de chrétiens, mais même pour ceux qui se définissent encore chrétiens, la foi, leur foi, est reliée à leur conviction personnelle à garder pour soi et ne fait plus partie du dialogue de notre culture en général. Et c'est un processus qui est massif, qui dépasse de loin la France. Peut-être que la France est l'un des pays au monde qui est le plus profondément sécularisé, mais c'est un fait pour lequel on est obligé de faire avec d'une certaine manière. On ne peut pas communiquer en s'adressant aux non-chrétiens comme si on était, comme il y a 100 ans ou dans d'autres pays, sans se rendre compte que ça nous rend inaudibles. Bien sûr, le message de l'Évangile est le message le plus beau qui soit, le plus riche qui soit, mais on doit être conscient quand on partage qu'il y a un vrai risque simplement de ne pas être entendu. J'ai lu cette image qui m'a amusé de Kierkegaard, qui parlait il donne cette parabole d'un cirque itinérant qui va de village en village, et arrivé dans un village, ils installent tout le monde s'habille avec son costume et tout ça, et puis le cirque prend feu. Alors le manager du cirque envoie le clown et va lui dire d'annoncer de chercher de l'aide et de crier de demander de l'aide pour cet incendie. Et alors le clown va dans le village, il fait des grands gestes, il cherche de l'aide, il s'agite, et puis tout le village commence à applaudir et tout le village est persuadé que ça fait déjà partie du spectacle. Et c'est peut-être un peu le risque que nous avons, c'est d'être de nous agiter, de faire plein de choses, mais d'être un peu perçu comme ce clown où on comprend pas bien le message, on comprend pas bien. On a le risque de communiquer plus de malentendus que d'informations. Alors, que faire pour s'adapter et tenir compte de cette situation? Alors, premièrement, l'objet, ce n'est pas d'adapter notre message, de changer notre message, de changer le message de la croix. On l'a vu avec Paul, il n'a pas peur d'aller jusqu'aux éléments les plus troublants pour ses concitoyens de la résurrection. Mais je crois, en revenant sur la question du missionnaire, je crois qu'on doit adopter ce regard des missionnaires. C'est-à-dire, mais comment exprimer notre message dans leur langue? Je pense qu'on doit traduire le message de l'Évangile, de ce qu'est l'Église, de ce qu'est notre vie chrétienne, dans la langue qui est celle de notre société. On doit être d'une certaine manière bilingue, à la fois parler couramment l'Évangile et aussi apprendre à parler la langue de nos concitoyens pour pouvoir exprimer l'Évangile dans notre culture. Alors concrètement, à quoi ça peut ressembler? Je voudrais faire trois propositions de choses qu'on peut faire pour tenir compte de ce processus de sécularisation. D'abord, s'appuyer sur les points de contact. Ne pas toujours se concentrer sur ce qui nous distingue de la culture, mais entrer en dialogue sur le vocabulaire commun que nous avons. Et il y a des choses communes dans notre culture. Les notions de justice, d'amour, de liberté sont particulièrement à la mode et c'est un peu partout. Alors on peut partir sur ces éléments communs, ce vocabulaire commun, et sur cette base-là, être clair, d'aller jusqu'à ce qui fait les différences, parce qu'on n'entend pas forcément la même chose lorsqu'on parle de liberté, d'amour et de justice. Mais on peut partir de ce qui est commun pour avancer vers ce qui fait notre différence. Deuxième point, et je pense que c'est essentiel, c'est de pouvoir construire au sein de relations profondes et vraies. Pas simplement être en contact avec nos chrétiens pour leur annoncer que Jésus est ressuscité, mais pouvoir créer des liens forts qui nous permettent d'avoir cette relation de confiance, là où on peut dire en confiance les choses qui sont vraies et importantes. Et c'est aussi l'occasion pour les gens de voir nos actes, parce que c'est un vrai danger pour l'Église de dire comment il faudrait vivre, de dire comment la culture devrait être, et de ne pas toujours être à la hauteur au niveau des actes. Lorsque c'est au sein d'une relation de confiance, on a l'occasion de montrer nos actes autant qu'on montre nos paroles. Et le troisième point, et ça me semblait évident, mais de prendre le temps de s'expliquer, de prendre le temps de déconstruire et d'expliquer nos termes, nos concepts, en étant bien conscient qu'on parle à des personnes qui ne parlent pas la même langue que nous. Et ça doit être le cas dans l'Église, qu'on puisse parler d'une manière qui puisse être audible, compréhensible pour des personnes qui n'ont pas forcément une culture chrétienne. Mais même au-delà de l'Église, je trouve important ce que fait Thierry Le Gall, qui est aumônier auprès de parlementaires, où son rôle, en tant que représentant du CNEF, son rôle est simplement de rencontrer les parlementaires, les députés, les sénateurs, pour expliquer un petit peu les évangéliques, parce que beaucoup de nos représentants ne comprennent pas quels sont nos enjeux. Il n'est là pas pour amener des nouvelles politiques, pas chercher à faire passer de nouvelles lois, mais simplement être en dialogue avec les parlementaires pour expliquer qui nous sommes, parce que c'est déjà une première étape importante qui me semble nécessaire. Donc nous ne devons pas changer notre message, la croix reste une folie, mais nous devons faire en sorte que la seule chose qui apparaisse comme une folie pour nos concitoyens, c'est vraiment la folie de la croix, et pas des malentendus qui viendraient de la manière dont on s'exprime. Nous devons entrer en contact avec notre culture, mais en tenant compte du fait que on n'a plus une société comme il y a 100 ans où tout le monde avait fait sa première communion, où tout le monde avait reçu certaines bases. Nous devons rendre l'Église audible en communiquant comme des missionnaires dans une terre étrangère. Alors je ne sais pas si cette première partie suscite des questionnements sur le fait de se rendre audible auprès de notre société. Oui.
Comment se rendre audible auprès de notre société? Alors aujourd'hui, vous parlez de sécularisation, mais aujourd'hui, on doit faire face à la laïcité et au débat sur la religion et la foi dans la sphère privée, et on ne doit pas en profiter sur la sphère publique.
Ouais.
Du coup, ça devient très compliqué. Et même au travail, on ne peut plus parler, même prononcer le nom de Dieu, sans être tout de suite accusé de faire du prosélytisme. Donc ça devient très compliqué, du coup, de trouver la limite. Le bon moment au bon endroit, c'est ça, c'est le premier point. Et puis aussi, je me suis toujours interrogée sur les nouveaux moyens, par exemple d'aborder les jeunes avec les outils qu'ils utilisent, comme Internet, l'application de la vie, le rap chrétien. Est-ce que c'est aussi des choses qui sont à la portée? Et est-ce que finalement on voit autant je ne veux pas dire vulgariser, mais en tout cas changer les modes de communication, les modes d'évangélisation?
Oui, c'est deux questions importantes. Dans quelle mesure la pression de la laïcité nous interdit de parler, et dans quelle mesure on devrait s'adapter aux nouveaux moyens de communication. Alors, pour la deuxième question, je reviendrai peut-être plus dans la troisième partie sur qu'est-ce qu'on doit recevoir de la culture et qu'est-ce qu'on doit accepter de modifier dans nos propres comportements et qu'est-ce qu'on doit écarter. Mais je pense que ça inclut ça, de s'adapter sur canaux de communication, les modes de communication, et pas de le faire à l'aveugle, de le faire avec un regard critique, mais il y a une nécessité de rencontrer les gens là où ils sont, et si on attend que les gens passent systématiquement à la porte de l'église pour entendre l'évangile, clairement on va toucher en fait ceux qui en général ont déjà une culture chrétienne. Alors je touche peut-être un sujet sensible, je ne veux pas être mal compris, mais je pense que ce qui fait qu'il y a beaucoup de croissance chez les évangéliques en France et dans d'autres pays occidentaux, d'abord dans les populations d'origine afro-caribéenne, c'est aussi parce que c'est des pays dans lesquels il n'y a pas encore cette pression laïcisante, et que de dire on annonce l'évangile à l'intérieur des murs de l'église et les gens doivent venir, ça repose déjà sur des acquis, sur l'idée qu'il y a vraisemblablement un Dieu, qu'il y a une place pour le surnaturel, que le pasteur n'est pas forcément un fou, enfin des grandes catégories qui font que, suivant la culture dans laquelle on a grandi, et c'est le cas aussi pour les régions où il y a plus de catholicisme traditionnel, on va avoir moins besoin d'adapter les choses. Et pour ceux qui n'ont aucune culture chrétienne, notamment sur la côte atlantique, massivement il y a très peu de culture chrétienne, et de dire aux gens de venir à l'église écouter le pasteur, il y a déjà un gap qui est tellement grand. De dire, mais dans quelle mesure on doit les rejoindre sur la musique qu'ils écoutent, sur les réseaux sociaux sur lesquels ils sont, sur les... Je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir. Une réflexion critique, pas tout gober tel quel, mais il y a une réflexion à avoir. Et sur la pression de la laïcité, alors c'est un vrai défi, c'est quelque chose de réel. D'une certaine manière, vous le vivez plus que moi, donc c'est important de le souligner. Cela étant dit, j'ai l'impression qu'il y a quand même un mouvement où il y a encore des domaines où il y a une interdiction et il ne faut pas prononcer le nom de Dieu. Mais dans la société en général, et en particulier chez les plus jeunes, il y a une certaine détente, un peu ce que je disais, de ne plus être athée contre les chrétiens, mais simplement de ne pas croire et d'avoir un certain intérêt culturel pour la bizarrerie que les chrétiens croient dans Dieu. Et qu'il y a un espace, si on n'est pas là pour venir amener un agenda, quoi, venir défendre notre beefsteak et faire valoir notre intérêt, il y a une place pour que les gens viennent nous questionner, dire « mais je ne comprends pas ». Je mentionnais ça hier sur la question d'être simplement marié. Pour Barbara, c'est le cas régulièrement, d'être mariée à 20 ans. Bah, simplement, ça démarre une discussion. Mais pourquoi? Explique-moi, c'est quoi cette bizarrerie? Je ne comprends rien. Et ça donne souvent l'occasion de pouvoir dire « mais c'est lié à ma foi et on peut en discuter ». Dans ce cadre-là, quand les gens viennent avec leurs questions et viennent avec leur curiosité, je pense qu'il y a quand même une place pour en discuter. Mais il y a des zones où c'est plus difficile. Dans les médias, c'est plus difficile. Dans l'éducation nationale, c'est souvent plus difficile. Peut-être parfois plus que ce qu'on imagine. Des fois, il peut y avoir un risque d'autocensure des chrétiens. Mais dans des relations de confiance, où les gens voient qu'on n'est pas juste des bizarres et qu'ils apprennent à nous connaître en tant qu'humains avant de nous connaître en tant que chrétiens, je pense que ça peut créer des espaces de discussion. Ouais. Oui, absolument. On ne part pas d'une feuille blanche. Les gens entendent tout un tas de choses sur l'Église. Alors, un peu plus, il y a une période où c'était un peu plus tendu. J'ai l'impression qu'en tant que chrétien évangélique, c'est des fois une carte qu'il ne faudrait pas jouer trop facilement parce qu'on est chrétien et on n'invite pas à se désolidariser absolument de l'Église catholique. C'est un autre sujet, mais parfois le fait de dire je suis chrétien évangélique et du coup je ne me reconnais pas dans tout ce qui est présenté des églises dans les médias peut laisser une place à cette discussion-là. Mais c'est vrai qu'on ne part pas d'une feuille blanche et que les chrétiens évangéliques n'ont pas un historique parfait non plus, et notamment donc c'est un peu moins le cas maintenant, mais dire ah oui, t'es chrétien évangélique comme George Bush ou comme Donald Trump maintenant ou comme le président brésilien, ça aide pas non plus des fois dans certaines discussions. Mais c'est là aussi où, à mon avis, on n'est pas là pour défendre notre truc. On n'est pas là pour défendre que les chrétiens, c'est les meilleurs. On est là pour apporter publiquement un message de grâce, de pardon. Je pense qu'il pourrait y avoir un risque de défendre notre paroisse et de dire « non, nous, on est mieux, nous, on est bien » ou quoi. On peut expliquer simplement ce en quoi on croit et que fondamentalement, on croit qu'on est des pécheurs sauvés par grâce et qu'il y a une place pour... Justement, je pense que ce qu'il y a dans les médias le plus grave, c'est pas forcément que les prêtres ou d'autres chrétiens soient dans l'erreur, c'est de ne pas reconnaître nos fautes, parce qu'on ne se présente pas comme parfait, on se présente comme imparfait, mais prêt à l'assumer parce qu'on a été sauvé par grâce. Mais c'est vrai qu'il faut en tenir compte et pas s'imaginer que les gens ont une image tout à fait positive de la foi chrétienne, c'est en général pas le cas. Oui. Et c'est pour ça que je souligne l'importance que ça se fasse dans des relations de confiance, parce qu'ils partent pas forcément avec des attaques ou des critiques très nettes, mais en tout cas un manque de confiance qui est très profond. Et ça, on doit en tenir compte, que la confiance, ça prend du temps, et qu'on doit construire des relations de confiance pour combattre ces vraies raisons qu'ils ont de ne pas faire confiance aux chrétiens. J'ai vu passer une citation sur anonyme sur Facebook récemment, dire je crois en Dieu, mais je fais confiance à aucun de ceux qui travaillent pour lui. Bah, ça fait mal, mais c'est quand même la situation et on doit l'entendre et prendre le temps de gagner la confiance des gens et pas simplement devenir en disant c'est ça la vérité, vous avez plutôt intérêt à le prendre. Et justement, pour passer au point numéro 2, enfin, si il nous reste du temps à la fin, on pourrait revenir à une question, mais c'est justement qu'est-ce que l'Église peut apporter à la culture, quelle peut être notre parole publique et notre investissement public dans la société. C'est pas simplement de pouvoir être audible pour dire l'Évangile, mais on a une responsabilité pour être au service et pour être une bénédiction de la culture, de la société de manière générale. Si le message de Dieu pour nous c'est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain, aimer notre prochain c'est pas que répondre à ses besoins spirituels, c'est d'abord porter l'Évangile, d'abord répondre aux besoins spirituels, mais pas seulement. Lorsqu'on pose la question à Jésus sur la question d'aimer son prochain et qu'il répond en parlant du bon samaritain, le bon samaritain apporte quelque chose de très matériel, il vient l'aider de manière très concrète et pas simplement lui dire que Jésus est mort pour lui. Et moi, ça va au-delà de l'aide matérielle, mais ça nous présente avec une responsabilité auprès de notre culture d'être là pour bénir notre culture. Et ça, d'abord parce que Dieu est le Dieu de toute la création, il n'est pas juste le Dieu de l'Église. Christ est notre Seigneur, mais il est aussi le Seigneur de l'humanité. Tout genou fléchira. C'est Abraham Kuyper qui a dit de manière fameuse il y a plus d'un siècle, il n'y a pas le moindre centimètre carré dans la totalité du domaine de notre existence humaine dont le Christ, qui est souverain sur tout, ne puisse dire « c'est à moi ». Et dans ce sens-là, on doit le faire avec sagesse, mais on ne peut pas accepter cette séparation domaine privé, domaine public. On ne peut pas accepter de limiter Christ simplement au privé. Alors il ne s'agit pas de s'imposer là-dedans, mais non plus de ne pas intérioriser ça en disant « ah bah oui, la foi c'est juste pour moi, c'est juste mes convictions personnelles ». Dans un Christ qui est Seigneur de l'univers, et ça doit se concrétiser dans une application pour pouvoir être une bénédiction pour toute la société. Alors il y a deux manières de pouvoir, en tout cas je repère deux manières dont les chrétiens ont vu cette question-là, qui peuvent être, alors qui sont très différentes, mais qui à mon avis ne sont pas incompatibles. D'abord il y a eu la manière de faire, de dire on doit être une contre-culture, on doit être séparé, aussi distinct que possible du reste de la société. Ça a été historiquement la position de l'anabaptisme, qui s'est concrétisée dans une version relativement douce chez les Mennonites, mais dans une version absolument extrême et radicale du côté des Amish, mais qui influence aussi les chrétiens, et je pense de plus en plus aujourd'hui, dans un contexte de sécularisation. Où dans ce cadre-là, le modèle, c'est de ne pas simplement être l'église où on prêche la parole et on partage le baptême et la scène ensemble, mais on devient une communauté contre-culturelle, presque une communauté qui devient une ambassade du royaume de Dieu, qui marque sa différence pour rendre visible ce que ça veut dire de vivre selon la volonté de Dieu. Mais c'est pas une manière de se séparer entièrement de la culture, c'est pas une manière d'oublier notre prochain. Parce que justement, ça peut être une bénédiction pour notre société. Dans quel sens? Ben, d'abord, parce que ça nous permet de vivre ce qu'on veut apporter. Ce n'est pas une simple question de dire ce que devrait être la culture, mais si on est une contre-culture, si on est une communauté qui vit l'Évangile déjà entre nous, ça nous permet de montrer par nos actes nos convictions et pas simplement le dire, parce que, comme je le disais à l'instant, on peut être taxé d'être hypocrite, de dire voilà, la société devrait être comme ça, et ça ne devrait pas changer dans ce sens-là, ça devrait changer dans ce sens-là. Et puis après, on regarde nos actes, et puis c'est un peu plus mitigé. C'est un pasteur qui me donnait l'anecdote où ils avaient un débat sur la justice sociale dans leur église, et ils avaient invité le maire de la ville pour venir être là, comme la question de justice sociale, ça implique les autorités. Ils avaient invité le maire. Le maire a gentiment refusé, mais il leur a dit tout simplement, mais par contre, je serais intéressé que vous veniez, que le pasteur ou une délégation vienne, et que vous puissiez me dire ce que vous faites au niveau de la justice sociale. Et là, c'est un peu plus délicat, parce que autant organiser des débats sur la justice sociale, ça allait, autant faire des choses pour bénir la société et être là pour travailler à la justice sociale, c'était un peu plus délicat. Et le maire avait, à mon avis, la juste réponse de venir débattre si vous voulez. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous faites. Et c'est une attente de notre société de ne pas dicter à la société ce qu'elle devrait faire, mais de montrer ce que c'est de vivre différemment. Alors, si ça peut être un sujet sensible, mais quand il y a eu une génération de ça, les lois qui ont ouvert plus librement le divorce en France, et ailleurs d'ailleurs, l'Église a souvent manifesté son opposition de manière assez nette. Et c'est une chose de s'opposer, de dire que la Bible est contre. Mais c'est délicat, ensuite, lorsqu'on voit que, alors on n'a pas de statistiques pour la France, en tout cas aux États-Unis, pour ceux qui se disent évangéliques, il n'y a aucune différence en statistiquement sur le taux de divorce chez les évangéliques ou chez les non-chrétiens. Et je ne suis pas sûr que ce soit très différent en France. Donc là, la société peut nous dire, mais c'est bien, vous militez pour tel ou tel sujet, mais qu'est-ce que vous vivez en interne? Et cette idée d'être une contre-culture, une communauté qui représente le royaume de Dieu, est à mon avis très importante pour être une bénédiction pour notre société. On a eu l'occasion d'aller il y a 3 ans maintenant au Sénégal et de voir une école de disciples où ils luttaient contre la déforestation. C'est une zone où la déforestation est vraiment avancée et c'est vraiment désertique, en tout cas en saison sèche. Et dans le terrain que la commune leur a laissé, je crois qu'ils leur ont laissé 60 hectares, c'est devenu un oasis, ouais, c'est une forêt, ils ont plusieurs milliers d'arbres à cet endroit-là. Et en discutant avec le missionnaire qui était sur place, il nous disait clairement, voilà, la commune nous a laissé ce terrain, on veut leur montrer ce qu'on voudrait faire si on était au pouvoir. Plutôt que de dire au gouvernement sénégalais, c'est comme ça que vous devriez faire pour lutter contre la déforestation, on va vous montrer sur notre terrain à quoi ça ressemble. Et c'est de cette manière dont on témoigne de notre différence. Et dans ce sens-là, je crois que cette tendance à la contre-culture, cette voie anabaptiste, si on pourrait dire, a quelque chose d'absolument utile pour notre société. C'est Tim Keller, dans son livre, résume cette position de la manière suivante. L'Église doit être une contre-culture, une société humaine concurrente à celle du monde, un signe adressé au royaume du monde. La meilleure chose que l'Église puisse faire pour le monde consiste à lui montrer le royaume du Christ, et en particulier par la justice et la paix qui caractérisent la communauté chrétienne. Et il lance ce défi à l'Église occidentale d'aujourd'hui en disant « Le cœur du problème est probablement la faiblesse de nos caractéristiques communautaires, le manque de caractère distinctif de nos communautés chrétiennes. À dire vrai, le défi auquel doit faire face l'Église d'aujourd'hui n'est-il pas moins dans la communication des opinions que nous défendons que dans notre incapacité à pratiquer un mode de vie spécifiquement chrétien. » Alors ça peut être un défi qui est présenté de manière un peu dure, mais je pense qu'il y a quelque chose de profond à entendre, que notre défi c'est de vivre nos convictions pour pouvoir en témoigner par nos actes. Et peut-être l'autre voie, la voie qui peut sembler un petit peu opposée, c'est ce que certains appellent, c'est par exemple ce qu'appelle Tim Keller, le modèle transformationniste. Qu'est-ce qu'il entend par là? C'est une implication dans la culture de manière active au sein de la culture pour apporter des changements. Un peu avoir les mains dans le cambouis, si on peut dire, de la culture. Dans ce cadre-là, l'idée c'est de ne pas être pessimiste, de ne pas dire que rien ne peut changer, mais de dire que même en tant que minorité, nous pouvons avoir un impact. C'est le modèle de Daniel ou de Joseph dans la Bible. C'est absolument minoritaire. Et en tant que minorité, parce que Dieu les a utilisés, ils ont eu un impact significatif sur la société dans laquelle ils étaient. Et il y a un certain nombre d'exemples historiques, si on pense à William Wilberforce dans son combat contre l'esclavage en Angleterre, si on pense, on parle beaucoup en ce moment de Martin Luther King aux États-Unis contre le racisme, il y a un certain nombre de personnes qui sont impliquées publiquement dans la société pour apporter des changements et qui ont eu un vrai succès, un vrai impact. C'est parce que notre roi est aussi le roi de toute l'humanité qu'on peut s'exprimer en tant que ses ambassadeurs et avoir quelque chose à dire. Mais ce n'est pas le tout de le dire. Le risque, ce serait simplement d'être en réaction à chose sans trop y avoir réfléchi. Et je pense que concrètement, il y a des vraies possibilités auxquelles nous devons réfléchir. Alors, je pense qu'il y a d'abord des manières à éviter, parce que justement, ça peut être une tentation quand on arrive sur la place publique de faire valoir notre influence, de voir ça comme une manière de gagner en pouvoir publiquement et culturellement, et voir qu'on sert un roi, le roi de l'univers, oui, mais un roi d'humilité qui est venu pour servir. Et on on est là pour être une bénédiction. C'est justement, je pense, la difficulté pour ce que je mentionnais tout à l'heure, la droite américaine conservatrice qui, parfois, a un certain triomphalisme, une certaine assurance, un certain orgueil de dire on sait comment doit être vécue la culture, on sait comment vous devez vivre, et utiliser tout leur pouvoir pour, d'une certaine manière, triompher du reste de la culture. Et on doit faire attention à s'impliquer dans la culture en tant que serviteur pour bénir la société et pas pour tirer notre propre avantage. Mais ça nous laisse quand même avec un certain nombre de possibilités. Je crois que d'abord, l'Église, en tant que ce qu'on appelle parfois l'Église rassemblée, c'est-à-dire l'Église institutionnelle, lorsqu'on est ensemble et qu'on parle au nom de l'Église du Tabernacle, au nom du CNEF, au nom des Églises protestantes, etc. Il peut y avoir une place pour dire nos convictions publiquement. Mais justement, c'est là où ça doit se faire, à la fois dans l'humilité, pour servir la société, et puis c'est particulièrement au moment où nous avons l'occasion de parler ensemble. Parce que lorsque nous commençons à communiquer publiquement de manière institutionnelle, mais que ça parle dans tous les sens, je ne suis pas sûr qu'on ait un effet très positif sur notre société. Mais je crois qu'au-delà de la parole de l'Église rassemblée, j'ai personnellement une tendance à penser qu'il est mieux que ce soit l'Église dispersée, c'est-à-dire l'ensemble des membres, là où ils sont pendant la semaine, qui ont un rôle dans la société, et que l'Église rassemblée peut avoir un rôle de formation, d'envoi, un peu ce qu'on fait ce matin, de discuter ensemble, de se former, de réfléchir ensemble, mais que c'est ensuite chacun d'entre nous d'être présent dans la société pour être une bénédiction là où nous sommes. Et le premier lieu où on peut être une bénédiction, c'est dans notre travail. C'est là où on passe le plus de temps. Et ça peut être, c'est l'occasion, déjà par l'excellence de son travail, le fait de faire les choses bien, qu'on peut être un témoignage pour notre culture, un témoignage pour notre société. Mais au-delà de ça, ça peut être aussi l'occasion, et là c'est peut-être plus particulièrement pour les jeunes, de choisir des voies où il peut y avoir une certaine influence. J'embête régulièrement les étudiants ici qui font du droit, parce que je pense que c'est un domaine important où les chrétiens doivent avoir leur place. Je suis content que certains veulent aller dans le journalisme, et là aussi, il y a une place pour les chrétiens qui est forte, qui est nécessaire. Il y a tout un tas d'autres choses dans les milieux académiques, dans les niveau des hauts fonctionnaires, tout un tas de choses. C'est pas un absolu, on ne doit pas être tous chercher à viser les sommets, et quand je cite ces métiers-là, c'est pas dans le sens qu'ils soient au sommet, mais c'est dans le sens où c'est là où la culture se fait, et aussi bien sûr dans les médias, et de pouvoir être au service de la société en étant là où la culture se fait. Mais au-delà de notre métier, il y a aussi tout un tas de groupes chrétiens qui ont une parole à dire. Ça peut être, pour en citer quelques-uns, ça peut être le cas du CEL, qui fait d'abord de l'humanitaire à l'étranger, mais qui fait aussi de la communication ici pour sensibiliser sur les questions de pauvreté. C'est le cas du Défi Miché, qui s'appelle maintenant Miché tout court, qui fait de l'action auprès des autorités pour défendre les questions de justice sociale et de tenir les autorités françaises ou européennes responsables de leurs engagements. Et c'est le cas aussi de Portes Ouvertes, dont on parle régulièrement ici, qui à la fois va aider les chrétiens persécutés au loin, mais qui aussi porte une parole ici en France ou en Occident sur la situation de nos frères et sœurs au loin. Oui, encore il y a quelques jours, il y avait une représentante de Portes Ouvertes qui était dans une émission sur Arte pour faire le point sur la situation des chrétiens dans le monde. C'est une parole publique qui a de la valeur et qui est entendue par nos sociétés, qui est importante. Les chrétiens ont besoin de savoir quelle est la situation des chrétiens persécutés partout dans le monde. Et un groupe comme Portes Ouvertes a vraiment quelque chose à dire. Et enfin, et c'est souvent la question qui est posée, c'est celle de l'implication politique, que ce soit localement ou au niveau national. Je pense que c'est clairement pas une voie qui est fermée pour les chrétiens. On n'a pas souhaité qu'il n'y ait que des non-chrétiens qui soient avec des mandats politiques. Ça reste quand même un domaine dans lequel il y a des difficultés qui sont singulières. À la fois de ne pas y être simplement pour être porte-parole des chrétiens et de chercher notre intérêt, comme je le disais à l'instant, mais aussi dans les systèmes de parti, de ne pas devenir porte-parole de valeurs qui sont opposées à l'Évangile. Donc avec une vraie liberté critique et une vraie liberté de parole, il peut y avoir une place pour les chrétiens dans la politique, mais c'est à faire en étant conscient des risques, en étant conscient des défis, mais aussi en recevant toute l'aide de l'Église autour de soi pour pouvoir le faire de manière qui soit réellement une bénédiction pour la société et pour l'Église. Donc, dans son ensemble, je ne pense pas que ces deux voies sont opposées. Ces deux voies peuvent être complémentaires. Alors, on ne peut pas tous s'impliquer partout, bien sûr. Vous n'allez pas avoir un mandat politique, une implication forte dans votre communauté locale et devenir le représentant local de Portes Ouvertes, celles et des Fumichés. On ne peut pas tous tout faire. Mais dans son ensemble, je pense que l'Église doit être présente à la fois comme une communauté forte où nous pouvons vivre l'Évangile entre nous et des individus qui peuvent, dans la culture, avoir une parole publique et chercher à présenter à notre société le message d'une manière différente de vivre la vie humaine. Nous avons à être une culture alternative, mais aussi de proposer cette alternative au monde. Alors, est-ce que cela amène d'autres questions ? Oui.
Justement,
en fait, par rapport à la contre-culture. Oui, il peut y avoir des limites. Alors, je me pose la question. L'exemple, bon, par exemple, pour les banques, il pourrait y avoir deux manières très différentes de voir les choses. Alors, de dire on va faire un business en interne pour l'interne. Je parlais avec Andy et Myriam hier, qui sont alors, pas de banque pour le coup, mais on parlait d'un traiteur chrétien pour les mariages chrétiens, où là, il y avait une logique commerciale, mais à viser des chrétiens pour des besoins chrétiens. Alors, certainement pas de décourager ça, je pense qu'il y a quelque chose d'important. Quel est l'impact en termes de culture? Je ne suis pas sûr, parce que là, il y a un enjeu d'apporter un produit adapté aux besoins d'un marché particulier. Et dans ce sens-là, je ne sais pas si les banques tournées vers certains groupes ont un enjeu... je veux dire, ils n'ont pas nécessairement un enjeu culturel interne. Ça peut être le cas. Je cherche un exemple pour ce qui pourrait être spécifiquement une manière de faire les choses chrétiennes avec un vrai enjeu culturel. Clairement, un média qui se fait tourner vers les chrétiens, par exemple un magazine comme Christianisme aujourd'hui ou quoi, là, ils servent les chrétiens avec une ligne éditoriale proprement chrétienne. Et donc, ils participent au fait, en tant que chrétiens, de vivre entre nous et de dialoguer sur notre différence et notre manière de voir le monde et de pouvoir se construire ensemble. Et il pourrait y avoir une autre version, on en a discuté avec d'autres journalistes, de dire je suis à la tête d'un média, mais qui est à vocation d'être lu par tous, et là j'ai une parole publique et je m'exprime différemment. J'ai un rôle de pouvoir apporter un regard chrétien. D'une certaine manière, c'est le cas pour les journaux un peu plus lus, certains journaux catholiques ou quoi, qui ont une ligne éditoriale chrétienne, mais qui sont cités. Quand il y a une revue de presse le matin à la télé ou quoi, La Croix va être citée, un certain nombre de médias catholiques sont lus à l'extérieur, et ils ont un impact, et ils ont une importance, et ils ont, à mon avis, ce rôle important de dire « voilà quel est notre regard chrétien sur l'actualité humaine, bien au-delà de l'Église ». Et je pense que les deux sont importants. Et les deux présentent des défis aussi. C'est-à-dire, quand on parle en interne, il peut y avoir un risque de parler entre nous pour nous sans avoir un regard critique que pourrait avoir cette différence de culture. Et moi, parfois, je suis inquiet pour la question des entreprises, très concrètement. C'est une inquiétude, c'est pas que c'est mal en soi. C'est que j'ai beaucoup entendu, par exemple dans les rassemblements de jeunes, qu'il faut viser le sommet, qu'on vend aux jeunes de devenir chef d'entreprise parce que c'est bien d'exceller pour Dieu, tout ça. Dans quelle mesure cet encouragement est fait pour être au service de la société et d'apporter une différence d'impact social et tout ça, ou dans quelle mesure on stimule nos envies de nous enrichir et d'être au sommet et que notre quête identitaire vient recevoir un dernier chrétien de dernière minute, la frontière n'est pas toujours évidente à fixer. C'est, pour les jeunes, c'est aussi ce qu'on cite en général pour être un footballeur ou un athlète, on va citer de devenir le prochain Usain Bolt, mais ça nous donne l'occasion d'être vu et de témoigner. C'est vrai, ça donne des occasions importantes. Mais dans quelle mesure on le fait parce qu'on a en fait envie d'être au sommet et qu'on trouve un moyen chrétien de le faire, ou dans quelle mesure on est prêt à être au service de la société. Et ça peut poser des questions très 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 concrètes où, à des moments où on va être pas être un athlète ou un artiste ou par exemple un acteur dans le cinéma, dire je vais refuser ce contrat, ça peut mettre un stop à mon ascension, ça peut mettre un stop à ma carrière, mais parce que je me souviens que je suis devenu acteur pour être au service de Dieu et au service de la société, j'accepte de ne pas être au sommet à ce moment-là et je fais confiance à Dieu pour prendre soin de ma carrière. Ou alors, en fait, c'est à ce moment-là que certains se réalisent que non, en fait, je suis juste reste au sommet et je vais prendre ce contrat quand même et j'espère que Dieu me pardonne. Et là, il peut y avoir des enjeux très concrets dans nos cœurs. Et je pense que c'est là aussi que l'Église a un rôle à jouer les uns avec les autres, de se dire qu'on part tous dans la société, vivre des choses concrètes, être une bénédiction, mais ça présente des défis qui sont très différents. Et moi, j'encourage ceux qui sont notamment dans les mêmes domaines d'activité. Alors, c'est difficile dans les domaines spécifiques, mais par exemple, on a plein qui font du droit, là, de discuter des problèmes que vous avez spécifiquement dans le droit, de dire, mais en tant que chrétien, je me pose telle ou telle question, ben, j'ai besoin de je peux en parler avec le pasteur, mais globalement, je ne sais pas à quoi ça ressemble d'être avocat. Alors que si on veut discuter entre chrétiens, vous pouvez vous aider les uns aux autres. On n'a pas une communauté d'acteurs, on n'a pas une communauté de journalistes, mais que quelqu'un qui veut se lancer dans le journalisme, d'être en contact avec un journaliste chrétien et d'aller lui poser la question, de dire, à quel moment je suis en train de me compromettre, à quel moment je suis en train d'être une bénédiction pour l'Église et la culture environnante. Pour moi, il n'y a pas de réponse toute faite, parce que les défis peuvent être très précis. On discutait avec un ami qui est dans la finance, mais à la fois les questions éthiques sont profondes et extrêmement techniques. Donc, ce n'est pas un truc de dernière minute, on va se positionner sur des enjeux de la gestion de la trésorerie, de la manière de mettre telle ou telle dette dans tel ou tel compte, de voir quelle implication morale ça a, si on n'est pas dedans. Difficulté à savoir quelle est l'implication chrétienne. Ok, je vais continuer avec le troisième point en espérant qu'on ait encore quelques minutes pour discuter sur le troisième point. Et peut-être c'est le point le plus sensible qu'on a dit, de chercher à être entendu par la culture qui est très différente et de s'exprimer de manière compréhensible. On a dit qu'on pouvait s'impliquer pour être un moyen de bénédiction pour notre culture, mais je crois aussi que on peut se laisser questionner par notre culture, que les non-chrétiens et la culture ambiante peuvent avoir des choses à dire à l'Église. En fait, avec notre orgueil bien chrétien, ça paraît assez naturel de se dire oui, on a quelque chose à apporter aux non-chrétiens, mais peut-être ça peut paraître un peu plus difficile à accepter, bien peut-être que les non-chrétiens ont quelque chose à nous apporter, un regard différent, des questions différentes. Et ça peut sembler presque le truc à éviter, bien mais non, nous on veut être différent, on veut justement pas être compromis par la culture ambiante. Mais je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, un petit détour pour répondre. Je repensais à la manière dont Henri Blocher, dans Révélation des origines, c'est un livre qu'il a écrit, un commentaire de Genèse 1, 2 et 3, et il se pose la question au début du livre de dire, mais qu'est-ce que je fais des résultats scientifiques? Dans quelle mesure les résultats scientifiques peuvent influencer ma lecture de Genèse 1, 2 et 3? Et voilà comment il formule cette question. Nous pouvons espérer, dans un effort de lucidité, rendre l'influence des conclusions scientifiques négligeable. C'est-à-dire, si je fais bien mon exégèse, je peux oublier ce qu'ont fait les scientifiques sur cette question-là. Mais la question qu'il pose, c'est le devons-nous? Est-ce qu'on doit chercher à faire l'exégèse en autarcie des résultats scientifiques? Et il continue, est-il juste de tenir compte des conclusions scientifiques, selon qu'elles paraissent certaines, dans l'interprétation de l'écriture? Et ce qui est pour moi très intéressant dans sa réponse, c'est qu'il fait une distinction entre deux possibilités. D'abord, il dit que les travaux scientifiques ne peuvent en aucun cas avoir un rôle magistériel. Qu'est-ce qu'il entend par là ? C'est que les résultats scientifiques ne peuvent pas dicter notre lecture de la Bible. Ça ne peut pas devenir le maître de notre exégèse, de notre lecture du texte. La parole de Dieu est l'autorité ultime pour nous, et ce n'est pas les résultats d'un biologiste ou d'un archéologue qui doivent dicter et devenir le maître de notre lecture du texte biblique. Par contre, il ouvre la possibilité pour que la science puisse avoir un rôle ministériel. Ce qu'il entend par là, c'est que la science peut être au service de notre interprétation, que le théologien peut être à l'écoute des résultats scientifiques pour que les résultats scientifiques viennent lui poser des questions, viennent amener à reconsidérer, à bien réfléchir certains textes pour être sûr d'être sur la bonne voie. Et je pense qu'il peut y avoir un parallèle avec notre relation entre la culture et l'Église. La culture ambiante n'a pas vocation à devenir le maître de notre culture d'Église. Elle n'a pas un rôle magistériel dans ce sens-là. L'Église répond d'abord à l'autorité de Dieu, à l'autorité de la Bible, et pas à l'autorité de la culture ambiante. Par contre, je crois que la culture peut avoir un rôle ministériel, c'est-à-dire être au service de l'Église, et au travers d'un regard critique, pouvoir nous apporter des questions et des sujets particuliers à traiter pour nous en tant qu'Église. Comme je disais, c'est de toute façon une illusion de s'imaginer en autarcie et complètement séparé de notre culture. D'une manière ou d'une autre, nous sommes influencés par notre culture. Mais plutôt que d'essayer de l'éviter, il y a une place, il me semble, pour entendre la culture et au travers d'un regard critique, être servi par la culture. C'est ce que disait d'une manière fameuse Karl Barth, nous devons avoir la Bible dans une main et le journal dans l'autre. Et c'était aussi vrai pour lui, c'est pas une idée d'avoir les deux au même niveau, mais que ce qui est écrit dans le journal puisse venir nous questionner sur ce que nous lisons dans la Bible. Alors, pourquoi on devrait écouter notre culture? Pourquoi il devrait y avoir quelque chose de positif à chercher dans notre culture? Encore une fois, parce que Dieu est le créateur de toutes choses, il est le créateur de l'univers, il est le créateur des bons chrétiens, et il peut agir aussi dans la vie de ceux qui ne le reconnaissent pas en tant que Dieu. C'est un missionnaire, Peter Beyerhaus, je ne sais pas comment on prononce, qui étudie les autres religions, les religions chrétiennes, et il dit qu'il y a dans chaque religion, et je pense que c'est vrai aussi pour les cultures, trois types d'éléments. Il y a des éléments divins, qui appartiennent au fait d'être créés à l'image de Dieu, qui sont la manière dont Dieu manifeste sa grâce dans l'ensemble de la culture. Il y a des éléments humains, marqués par le péché et marqués par les conséquences de la chute. Et il y a carrément des éléments démoniaques. Et il présente des choses, et je pense que c'est vrai aussi pour notre regard sur la culture, c'est notre responsabilité d'avoir ce regard critique pour faire le tri, et de clairement pas ne pas accepter toute la culture telle qu'elle est, mais de pouvoir discerner ce qu'il y a de divin, ce qui appartient à la grâce de Dieu dans la culture qui nous entoure. Alors, concrètement, à quoi ça peut ressembler? Alors, je pense que ça, les exemples peuvent être absolument infinis, d'ailleurs, je ne vais pas tous les citer. Mais déjà, dans les thèmes qu'on aborde, les questions qu'on se pose, ce qu'on est amené à prêcher ou enseigner, c'est important d'entendre ce qui anime notre culture. J'ai bien vu que c'était un souci pour le cercle féminin, par exemple, qui cherche à rentrer en dialogue sur ces thèmes-là. Notamment, il y avait la question de débat MeToo, balance ton corps l'an dernier, de savoir comment on se positionne nous en tant que chrétiens, parce qu'on n'a pas tout à recevoir comme tel, mais il y a des questionnements qui sont à entendre sur l'impératif de justice, sur la dignité de la personne, sur la sacralité de la sexualité. Il y a des choses où on a des choses à entendre et on a besoin de pouvoir entendre que ce débat-là peut être aussi abordé ici, en Église, au regard de la Bible. C'est le cas très clairement avec les injustices sociales, où souvent elles sont mises en avant par des organismes non chrétiens, si on pense aux travaux d'Oxfam, ou tous les lanceurs d'alerte, ou différents médias qui traitent de ces questions-là. C'est des non-chrétiens qui mettent en avant ces injustices, mais nous, en tant que chrétiens, avec tout le regard qu'avaient par exemple les prophètes sur les injustices sociales en Israël et à l'extérieur d'Israël, on a aussi des choses à dire sur ces injustices. C'est le cas aussi pour l'écologie, où bien souvent c'est nos chrétiens qui ont mis en avant ce défi-là, ce risque-là, mais ce n'est pas un enjeu étranger à la Bible. Nous avons une responsabilité de prendre soin de la création, Nous avons besoin de prendre soin des plus faibles, qui sont souvent les premières victimes des dérèglements écologiques. Et là, on n'a pas à faire une opposition, mais à entendre ce qui est dit et voir quel est notre regard profondément chrétien sur ces questions-là. Et c'est vrai aussi pour ce qui est même de notre fonctionnement en Église, sur la manière dont nous communiquons, par exemple. Il peut y avoir certaines études sur l'enseignement, sur la pédagogie, et les pasteurs, par exemple, n'ont pas à être opposés à réfléchir, mais comment transmettre un enseignement. C'est le cas, par exemple, pour ce qui était anciennement appelé école du dimanche. Alors, clairement, l'importation culturelle est évidente dans le nom même. Alors, maintenant, on évite d'appeler ça l'école du dimanche. Mais il y avait un apport de l'école de la semaine sur la manière dont on voyait l'enseignement pour les enfants le dimanche. Et Myriam Becquerieux, qui gère les ateliers bibliques ici, lorsqu'elle passe la porte de l'église, elle n'oublie pas tout ce qu'elle a appris en tant que professionnelle de l'enseignement dans l'éducation nationale. Elle apporte cet enseignement et ce qu'elle a reçu dans une culture non chrétienne pour bénir les enfants de l'église. Mais elle le fait avec un regard chrétien, avec un regard critique sur ce qu'elle reçoit et en apportant ce qui peut être apporté. C'est un sujet toujours très difficile, mais c'est le cas aussi pour la louange, la musique, les styles musicaux. On discutait encore juste avant le culte. C'est parfois une critique de voir l'influence que peut avoir la culture sur tel ou tel style de louange. Mais en fait, on n'a jamais été indépendant de ça. Tous nos chants de louange vivent une certaine influence de l'époque dans laquelle ils ont été écrits. Je relisais encore il y a quelques temps avec intérêt ce qu'on disait Jacques Blocher lorsqu'il voyait les campagnes d'évangélisation de Billy Graham. Et il était particulièrement intéressé de voir comment les campagnes de Billy Graham utilisaient à la fois les médias, mais aussi les styles musicaux et la manière de communiquer pour pouvoir apporter l'évangile à la génération qui était touchée à ce moment-là. Donc, d'une certaine manière, la culture nous influence nécessairement, on le veuille ou non. Mais on a cette responsabilité de porter un regard actif et critique. Parce que si on est aveugle sur notre culture, alors elle nous influencera forcément d'une manière qu'on ne peut pas contrôler. Mais si on a un regard critique, alors on pourra faire le choix d'écarter certaines choses, même de combattre et de dénoncer certaines choses, mais aussi d'accepter et de se laisser enseigner et d'apprendre sur d'autres sujets. C'est ce que le théologien Miroslav Volf résume en disant que les chrétiens peuvent adopter trois positions vis-à-vis de tel ou tel élément particulier de la culture. Ils peuvent l'adopter en le considérant comme acceptable, accepter cet élément et le transformer de l'intérieur, ou le rejeter et même œuvrer pour abolir pour le bien de tous. Il doit y avoir ces trois possibilités, vraiment d'accepter tel quel, d'accepter en transformant de manière significative, et de rejeter entièrement certaines choses, et même publiquement de dénoncer et de combattre certaines choses. Donc voilà, on arrive au bout de notre parcours, on a vu comment on peut être audible et entendu par une culture qui n'est pas la même que celle de l'Évangile. On a vu notre responsabilité de bénir notre culture, bénir notre société en s'impliquant publiquement. Et on vient de voir comment on doit être aussi à l'écoute de la culture pour recevoir les choses qui sont de l'ordre de la grâce de Dieu dans la culture non chrétienne. Alors c'est un vaste chantier et je suis bien au clair que j'apporte beaucoup plus de questions que de réponses. Mais je pense que nous devons aussi, individuellement et collectivement, continuer d'avoir cette discussion, cette réflexion, de se poser la question qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pour ma carrière, pour mon implication dans l'Église, l'implication dans la société, et qu'on puisse non pas être passif, mais pleinement actif et d'avoir un regard critique pour que nous puissions être une bénédiction pour l'Église et pour la société et que nous puissions rendre gloire à Dieu partout où nous sommes. Alors, je ne sais pas si ça donne lieu à encore deux questions.
Je pense